Bonjour, c'est Franck Ferrand. Vous aimez forcément les histoires, vous vous apprêtez à en écouter une. Eh bien, je voudrais vous parler d'un programme passionnant, La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels, la référence en la matière. On y évoque des bijoux de sentiment, de pouvoir, des joyaux mythiques, fascinants, romantiques, leurs secrets, leurs légendes. Découvrez l'histoire du grand diamant bleu de Louis XIV et celle des grilles de mariage de Rihanna. Pour sa 4e saison, La Voix des Bijoux s'intéresse aux liens tissés entre bijoux et bande dessinée. La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers, est disponible en français et en anglais sur toutes les plateformes.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Nous sommes un dimanche, le dimanche 15 novembre 1903 à Boston. Il est 8h du matin quand le paquebot Vancouver entre dans le port de la ville, hein, sur la côte est américaine. Vous connaissez Boston, la ville historique des colonies anglaises devenue la grande ville de ces nouveaux États-Unis. La brume recouvre les quais et il y a cette masse du navire qui s'avance comme ça dans la bruine et qui s'aligne sur l'appontement. Tout se passe comme prévu, on jette les amarres, vous avez le personnel qui amarre le navire, les passerelles sont baissées. Et dans le brouillard, on devine les gens qui sont là, qui vont descendre. Oh, la plupart n'ont pas grand-chose, un petit baluchon, parce que, vous vous en doutez, la majorité sont des immigrants. Le navire avait quitté Gênes une semaine plus tôt et tous ces gens sont des Italiens qui fuient la pauvreté, qui fuient toutes sortes de misères pour venir vivre le rêve américain. Et parmi ces émigrés, un jeune homme de 21 ans, il revient faire sa vie de ce côté-ci de l'Atlantique. Il est seul, il s'appelle Charles Ponzi. Son vrai prénom, c'est Carlo, mais il l'a transformé en Charles pour mieux s'intégrer à cette société anglo-saxonne dans laquelle il a bien l'intention de se fondre. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va marquer l'histoire des États-Unis et aussi l'histoire de la finance. Voici ce qu'il écrit dans ses mémoires. Il se trouve que les mémoires en question ont été traduits en 2020. C'est une autobiographie qui s'intitule, c'est déjà en soi tout un programme, « Mon ascension ». J'étais l'un de ces immigrants, un atome de la foule bigarrée qui suintait du flanc du navire. Une silhouette minuscule, attifée dans des habits coûteux de la dernière coupe à la mode en Europe et suivie sur la passerelle par une paire de stewards chargés de plusieurs valises, grandes et petites, marquées « première classe ». J'étais dans le pétrin à ce moment précis, dans la dèche, dans une situation critique, et cela à 8000 km de chez moi et à au moins 800 km de ma destination finale, dans un pays étranger, sans amis, sans argent. C'était exactement cela, fauché dès le départ. La totalité de mes ressources en liquide s'élevant à 2,50 $. Moins de 2 semaines auparavant, j'avais quitté l'Italie avec 200 $, la bénédiction de ma mère et une humeur enjouée en route pour les États-Unis. J'étais parti avec une mission définie dans un but précis, en un clin d'œil, m'enrichir. Mais à peine débarqué sur le quai, sur le sol américain, ma situation était plus que fâcheuse. J'avais encore la bénédiction de ma mère, mais c'était tout. Les 200 $... s'était réduit à 2,50 $ pendant le voyage. Un tricheur aux cartes m'en avait pris la plus grande partie et les pourboires et le bar m'avaient débarrassé du reste. Mon humeur enjouée avait disparu et j'avais le cœur lourd.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Ah, c'est une situation dont on imagine qu'elle est pleine d'inattendus. Avant de quitter l'Italie, la famille Ponzi avait dit à Charles de se rendre à Pittsburgh, car il s'y trouvait un cousin qui pourrait sans doute l'aider à s'intégrer dans ce nouveau monde, sur ce nouveau continent qui était à la fois riche de promesses, bien sûr, mais aussi extrêmement lourd de menaces. Non seulement Charles ne connaît personne, mais, vous l'avez compris, il n'a pas un sou. Et en plus, il ne parle pas anglais, pas encore. Mais Charles Ponzi sait s'adapter à tout. C'est ce qu'il dit lui-même, c'est ce qu'il écrit, c'est ce qu'il dira et répétera. Il décide de ne pas se rendre à Pittsburgh où se trouve le fameux cousin. Non, non. Lui va se rendre d'abord à New York. Et c'est à New York que chaque jour, il apprend un certain nombre de mots, de vocabulaire. Alors, pour vivre, il doit passer par tous les petits métiers, on connaît ça par cœur. Hein. Il travaille à la plonge dans un certain nombre de restaurants. Il devient assistant épicier. Il se lève très tôt pour aller chercher toutes sortes de colis et de ballots. Il répare des machines à coudre dans les usines et puis il va devenir serveur. D'ailleurs, à chaque fois qu'il sera serveur, il se fera renvoyer, soit parce qu'il est pris en train de piquer dans la caisse, soit parce qu'il a tendance à garder la monnaie des clients, ce qui, somme toute, revient au même. Nous sommes en 1907 maintenant, vous voyez que le temps passe un petit peu, ça fait 4 ans que Charles est aux États-Unis et il est devenu parfaitement bilingue. On se demande même si l'anglais, enfin si l'américain n'est pas sa langue maternelle. Il ne s'est toujours pas rendu à Pittsburgh, hein. Il a complètement oublié ce fameux cousin, il a même oublié son nom, le nom de ce cousin qu'il aurait pu retrouver. Charles n'a toujours pas réussi à se créer une véritable situation, hein. Il continue de bourlinguer de droite à gauche, tous ses amis autour de lui sont exactement dans le même cas que lui. Nous sommes en présence d'une population qui se trouve dans un grand état de précarité, dont la situation change quasiment d'un mois à l'autre. Et désormais, Charles commence à regarder vers le nord du continent, c'est-à-dire vers le Canada. Il a l'intention de se rendre à Montréal parce qu'il a entendu parler d'une banque qui est bien implantée, qui plus est une banque italienne, du nom de son fondateur, Luigi Zarossi. Eh bien voilà que Ponzi, avec le très peu d'économie qu'il a réussi à constituer, fait le petit voyage et qu'il débarque à Montréal. Il a un dollar en poche, décidément c'est une habitude, me direz-vous. Il se rend dans la banque en question et il demande à s'entretenir avec Zarossi. Il a changé son nom, hein. Il s'appelle Bianchi maintenant. Il se fait passer pour un ancien banquier romain et le banquier qui est installé à Montréal est ravi de voir arriver cette jeune personne. Il a une bonne tête, Charles Bianchi. Il possède incontestablement du charme. Il inspire la confiance. Il parle aussi bien l'anglais que l'italien. Et évidemment, il sait jouer sur cette fibre italienne. Et Zarossi va lui dire « Écoutez, vous m'êtes sympathique, revenez le lendemain. Il pourra trouver son bureau prêt à l'accueillir. » Et à ce moment-là, on lui expliquera tous les secrets pour s'enrichir. Charles a réussi. Hein. Il savait, il sentait que c'était le plan qu'il fallait suivre, que c'est là-bas que les choses se passeraient. Il est aux anges. Il a le sentiment qu'enfin, on l'a compris. En tout cas, qu'on a commencé à le juger à sa juste valeur. Et donc, le lendemain, inutile de vous dire qu'il est de retour. Il a emprunté à une lointaine connaissance un beau costume qu'il a fait bien rajuster. Il est magnifique. Et il se retrouve en face de M. Zarossi qui va lui expliquer le fonctionnement. À tous les Italiens qui viennent déposer leur argent chez lui, Luigi Zarossi propose un rendement de 6% en 6 mois. C'est complètement dément, hein. Les autres banques proposent 2%, ce qui déjà est pas mal à l'époque. Et quand Charles lui demande comment il fait pour offrir de tels rendements, le banquier le regarde droit dans les yeux et pose son index sur sa bouche. Charles comprend qu'il doit y avoir là-dessous quelque chose d'un peu louche, que tout ça n'est peut-être pas tout à fait légal, mais peu lui importe. Il a trouvé une bonne situation, il a trouvé ce patron tout à fait charmant qui a l'air de lui faire confiance et qui en plus possède le moyen de s'enrichir. Bon, écoutez, quand on a galéré, quand on a, comme lui, écumé toutes les difficultés que le Nouveau Monde peut réserver à tous ces gens qui débarquaient par bateaux entiers de l'Europe, quand on a pendant longtemps erré en se demandant ce qu'on allait pouvoir faire et qu'on vous propose une telle situation, il faudrait être fou pour la refuser. Monsieur Bianchi alias Ponzi, comme vous voudrez, dans son beau costume, derrière son beau bureau, se dit que tout va pour le mieux. Le final du concerto pour cordes de Nino Rota par l'Orchestre Philharmonique de la Scala sous la direction de Riccardo Muti.
Vous écoutez Radio Classique.
Un an a passé, nous sommes à l'été 1908, donc Charles Ponzi continue à travailler dans cette banque italienne de Montréal, la banque Zarossi. C'est un excellent employé de banque, il est même un peu mieux que ça, et Luigi Zarossi apprécie beaucoup son nouvel employé. Il l'apprécie tellement qu'il a même l'intention maintenant de le marier à sa fille. Bon, la vérité c'est que, vous l'aurez compris, Zarossi n'est pas blanc-bleu. Le patron de la banque a fait de mauvais placements. Pour obtenir les 6% de rendement, là, il faisait en fait des bascules incroyables. Il jouait avec l'argent des clients et à force de jouer, il a perdu. Je dirais même qu'il a tout perdu et il vaut mieux prier pour que ça ne se sache pas. Le temps de se refaire une santé, vous connaissez tout ça. Sauf que, bien entendu, il y a des gens qui vont se charger de faire connaître le pot aux roses. Ça s'ébruite, cette affaire. Un jour, un client réclame tout son argent. Vous savez, il vide son compte, comme on dit. C'est pas très bon signe, ça. Et puis un deuxième fait pareil, un troisième. Et puis, assez vite, on va voir s'accumuler devant les guichets toute une foule. Et on commence à secouer les grilles et on tape sur les comptoirs et on veut son argent. Luigi Zarossi prend un sac, il remplit des derniers billets dont il disposait et le voilà qui prend la porte de derrière sans rien dire, laissant derrière lui sa famille, ses employés, son principal second, donc Charles Ponzi, qui se retrouve dans une situation complètement intenable. Mais comment faire, vous imaginez? D'autant que les clients sont là, à secouer les grilles, là, toujours de plus en plus menaçants. La foule veut qu'on lui rende son argent. Et pour se permettre de rembourser ses premiers clients qui sont en train de faire tache d'huile, Ponzi prend un chèque et il se met à imiter des signatures de clients fortunés. Là, on est dans l'escroquerie pure et simple. Et quelques jours plus tard, inutile de vous dire que ceux qui débarquent dans la banque, ce ne sont plus des clients, là. C'est carrément la police, bien entendu. On ne peut pas laisser faire une chose pareille. Alors on va interroger les employés pour savoir qui imite si mal les signatures. Et assez vite, Charles est obligé de se dénoncer. Il va être jugé, bien sûr, et condamné à 3 ans de prison. Il est tellement charismatique, d'ailleurs, qu'il arrive à négocier un traitement meilleur. Et il va passer ses 3 années de prison en tant que secrétaire du commandant pénitentiaire. C'est vous dire quand même si ce type a du bagou, s'il a du charme, il est capable d'embobiner à peu près n'importe qui. Vous voyez les autres détenus qui sont là avec leurs boulets en train de casser des tas de cailloux. Et lui, il est le secrétaire du patron. Bon. En 1911, il sort donc de prison, Ponzi. Il refranchit la frontière dans l'autre sens. Le voilà qui repart pour les États-Unis. Il a 29 ans maintenant. Et il faut tout recommencer à zéro. Et si vous faites un petit calcul, c'est tout simple. Ça fait 8 ans maintenant qu'il est sur le continent américain. On ne peut pas dire que le bilan soit vraiment très brillant. Sur le chemin qu'il ramène aux États-Unis, un de ses amis lui propose d'aider 5 réfugiés italiens qui veulent eux aussi se rendre aux États-Unis. Ils ont du mal à traverser la frontière. Ponzi accepte de les aider, mais ce qu'il ignore, c'est qu'il va se faire arrêter à la frontière. Et cette fois, on le juge comme passeur. Il essaie de se défendre. Il dit simplement qu'il voulait rendre service, il a été pris de pitié pour ces gens. Sauf qu'alors là, on ne plaisante pas avec ces choses-là. La justice américaine l'envoie dans la prison d'Atlanta, où il va rester 2 années, et cette fois, il n'a pas de régime de faveur. On est en 1913, il a 31 ans, Charles, quand il quitte la prison pour la deuxième fois. Ah, cette fois, il a bien l'intention de ne pas y retourner. Il veut définitivement rompre avec ce passé douteux, difficile. Il a bien l'intention de gagner sa vie. Il veut faire mieux que ça. Il veut devenir riche. Et il se donne pour réussir, ce qui est assez, réaliste, somme toute. Il se donne 10 ans. Les années passent. On le voit encore faire toutes sortes de petits métiers. Il est infirmier, après on le voit peintre en bâtiment, puis bibliothécaire. Il est même sage-femme. Il n'y a pas de terme pour les hommes qui pratiquent ce métier. Il a une telle assurance, un tel charisme qu'on lui confie à chaque fois des missions qui sont de plus en plus importantes parce qu'il inspire confiance. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Et il parcourt les États-Unis, l'Alabama, le Texas. Le voilà maintenant, ça y est, là-bas sur la côte ouest. Et en 1918, là, c'est le début de ce qu'il attendait et de ce qu'il espérait. Charles Ponzi est retourné sur la côte Est. Le voilà de retour au point de départ, si je puis dire, à Boston. C'est là qu'il était arrivé 15 ans plus tôt. Il trouve du travail dans une compagnie d'import-export. Et là, il va gravir les échelons, sérieusement. Il est très respecté. Personne ne connaît son passé de prisonnier, évidemment. Il devient un agent de bureau respectable, ambitieux, un jeune homme déterminé. Sa personnalité plaît. Et puis, il a tellement voyagé, bourlingué, qu'il a énormément d'histoires à raconter. Il sait toujours quoi dire pour captiver son auditoire. C'est ça le secret de la personne qui veut arriver à embobiner les autres. En 1919, il rencontre celle qui va devenir son épouse. Elle s'appelle Rose Necco. C'est une charmante jeune femme. Et au printemps 1919, ils vont se fiancer. Charles veut lui offrir ce qu'il y a de mieux. Il lui dit que dans un an, ils pourront vivre dans un palace. C'est toujours un peu inquiétant quand quelqu'un de ce tempérament fait ce genre de promesses. Un beau jour, il est pris d'une idée brillante. Il reçoit une lettre de sa famille restée en Italie. Il l'ouvre et à l'intérieur, il y a un coupon réponse international. Qu'est-ce que c'est ? Ces séries coupons réponse internationaux ont été inventés en 1907 par les pays qui s'étaient rassemblés au sein de l'Union postale universelle. Ce sont des timbres, si vous voulez, qui permettent d'envoyer des lettres à l'étranger. Les timbres en question, à l'époque, les timbres ne fonctionnent qu'à l'échelle d'un État. Donc là, vous avez des timbres internationaux. Si vous voulez, on est à l'époque où il y a toutes ces migrations entre l'Europe, les États-Unis. On a besoin de ce courrier international. Les familles coupées en deux veulent pouvoir s'écrire. En 1907, les coupons avaient une valeur commune au sein de chacun des pays, 25 centimes dans chaque monnaie nationale. Sauf que la Première Guerre mondiale a créé des disparités extraordinaires dans la valeur des monnaies et qu'il y a là quelque chose à jouer. Voici ce qu'écrit Michel Turin dans un livre qui s'appelle « Profession escroc ». Charles Ponzi a vite fait de repérer que la valeur des timbres varie d'un pays à l'autre. Il décide, expliquera-t-il, de jouer sur la différence entre le prix d'achat d'un coupon dans un pays européen et son prix de revente à l'US Postal Service, la poste américaine. Les monnaies européennes ont subi des dévaluations après la Première Guerre mondiale. Ponzi fait le calcul. Un coupon ne coûte en Espagne que l'équivalent de 1 cent US. Il peut être échangé contre un timbre de 6 cents dans un bureau de poste des États-Unis. Le résultat auquel il parvient est impressionnant. 1 million investi en Espagne, en Italie ou en France peut rapporter 6 fois cette somme aux États-Unis. Et Ponzi est le premier à comprendre ce qu'on doit pouvoir tirer de cette incongruité, comment peut-on dire, de cette erreur administrative. Et il comprend la mine d'or que ça représente. Alors, il va placer toutes ses petites économies dans la manœuvre et puis, avec l'argent, avec le bénéfice, il crée une société. Il propose qu'on lui confie de l'argent. Par exemple, vous lui prêtez 1 000 $ et il promet qu'en 90 jours, il vous donnera un rendement de 100%, c'est-à-dire qu'il vous rendra non seulement 1 000, mais 2 000 $ simplement comme ça, en lui confiant l'argent. Mais sauf que lui, au passage, il a fait le bénéfice sur les 4 000 qui restent. Charles est quelqu'un qui inspire confiance, je vous l'ai dit. Alors on lui prête de l'argent, et puis devant l'efficacité de ce rendement incroyable, qui défie toute concurrence, on lui prête de plus en plus. On parle de lui, de son incroyable rendement, et il y a tant d'argent maintenant qui afflue, qu'il n'est même plus nécessaire de jouer là sur la valeur des timbres internationaux, ça c'est même plus utile. La simple arrivée des nouveaux clients paie le rendement des premiers arrivés, et ainsi de suite. Bon, c'est le vieux principe de la cavalerie budgétaire. Au début, on parle de quelques dizaines de milliers de dollars, et puis de quelques centaines de milliers de dollars, puis de millions, etc. 1 million, 2 millions, tout cela s'entretient tout seul au sein de la banque que Charles a rachetée à la fin de l'année 1919. On est en train de monter comme ça un échafaudage de créances absolument extravagant. Ce qui est en train de naître, vous l'avez compris, c'est la pyramide de Ponzi. Quelques notes du clan des Siciliens, cette musique du film d'Henri Verneuil, signée bien sûr Ennio Morricone.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Ah, les affaires fonctionnent très bien pour Charles Ponzi, qui achète le fameux palace qu'il avait promis à sa femme à l'été 1920, qui lui offre une incroyable voiture à rallonge comme ça se faisait à l'époque. Il peut se permettre tout ça, il est riche. En juin 1920, il avait déjà 2 500 000 dollars dont il gérait, qu'il faisait fructifier. Le mois suivant, il en a 6,5 millions. Le mois suivant, 10 millions. Il gère maintenant la fortune de 30 000 personnes. Ça fait seulement 7 mois qu'il a fondé sa banque. Tout marche si bien. Charles Ponzi est si populaire auprès des petits épargnants qu'il caresse maintenant l'idée de se faire élire maire de Boston. Voici ce qu'il écrit dans ses mémoires. Boston marchait alors magnifiquement, comme un petit tambour major. Les rentrées dépassaient les prévisions, c'était flatteur, mais la flatterie devenait dangereuse. Elle me rendait vain. Imprudent. Elle me faisait rêver de richesse, de pouvoir, de popularité et de tout ce qu'on peut imaginer. Que nous sommes stupides, nous autres mortels. Je décidais de me développer, d'ouvrir des succursales. Dans mon esprit, mon entreprise méritait certainement un plus grand développement si jamais une affaire le justifiait. Je m'occupais du bien le plus essentiel de tous, l'argent. Le monde était mon marché, l'humanité tout entière était ma clientèle. Bon, ça y est, Charles Ponzi est complètement voué à l'hubris.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Or, en juillet 1920, une première personne commence à porter plainte contre lui. Il s'agit de quelqu'un qui avait vendu des meubles au banquier lors de son installation et qui dit qu'il n'a jamais été payé. Alors, il y a un article qui sort dans les journaux. Certains clients commencent à demander qu'on leur rende leur argent. Vous savez, il faut faire très attention. Le crédit, c'est vraiment une question de confiance. Et quand ils veulent leur argent, les gens, ils demandent l'argent, plus les bénéfices, bien entendu. Et Ponzi leur rend, ce qui rassure les autres. Ça permet de tenir la confiance. La simple journée du 26 juillet de cette année 1920 lui voit empocher quelque 200 000 dollars. Bon, ben, ça va. Une journée, 200 000 dollars. On parle des dollars or de l'époque, hein, ça fait beaucoup d'argent. Cette première affaire de meubles a quand même intrigué un journaliste du Boston Globe qui très vite s'aperçoit qu'il n'y a pas assez de coupons réponse internationale à échelle de la planète pour pouvoir assurer le rendement qu'annonce Charles Ponzi. Ça, c'est tout simple, hein, c'est un calcul tout bête à faire, mais que personne n'avait fait jusqu'ici. La une du Boston Globe va provoquer une première panique. Le lendemain, on se presse devant la banque. Et ça y est, ça recommence, comme vous savez, dans l'autre banque, là-bas, au Canada. Ponzi doit rembourser 2 millions en une seule journée. Évidemment, ça l'inquiète beaucoup. Il se dit que si l'on n'a plus confiance en lui, tout le monde va vouloir retirer son argent. Ce sera l'effondrement de la pyramide de Ponzi. En parallèle aux journalistes, la justice commence à s'intéresser à son cas. Un procureur, notamment. Quelques semaines après le fameux article, en août 1920, un journal va publier des photos de Charles Ponzi en tenue de prisonnier tenant la pancarte avec son numéro de matricule. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est une foule qui maintenant vient réclamer son argent. C'est toute l'économie du Massachusetts, entre parenthèses, qui commence à vaciller. Les autres banques décident entre elles de ne plus encaisser un seul chèque qui porterait la signature de Ponzi. Ça, c'est le coup de grâce. Ça y est, la chute de Charles est en train de se décider. Elle va provoquer, elle peut provoquer la chute de 6 autres banques. La banque Ponzi est mise sous tutelle. Lui est arrêté au milieu du mois d'août 1920. Il y a 90 charges de fraude contre lui, vous imaginez. En novembre 1920, il est jugé. Sa femme lui demande de plaider coupable pour essayer d'attendrir un peu le jury, pour obtenir un peu de clémence. Il ne sera condamné qu'à 5 ans de prison et ne fera d'ailleurs que 4 ans, car il est toujours tellement exemplaire, hein, il plaît toujours autant et il est libéré pour bonne conduite, donc libéré en août 1924. Dans cette affaire, ce qu'il ne faudrait peut-être pas oublier, parce qu'on se concentre beaucoup sur la personne de Charles Ponzi, mais dans cette affaire, il y a 20 000 épargnants qui ont perdu leur argent. C'est une perte considérable, hein, 20 millions de dollars. Vous imaginez tous ces pauvres gens qui avaient fait confiance à ce type. Ponzi décide d'aller s'installer en Floride. Il décide de proposer, alors c'est parce qu'il y a quand même quelque chose de presque maladif dans sa façon de faire et d'être, hein. Il propose un rendement maintenant de 200% en 60 jours. Sauf qu'il a beau changer de nom, d'apparence et tout, on l'a reconnu et cette fois il est recondamné. 1 an de travaux forcés, allons-y. Ponzi sera finalement extradé en Italie et sa femme, entre-temps, a demandé le divorce. De retour en Italie, il va se voir proposer un poste à la section financière du gouvernement italien. Figurez-vous, le poste en question lui est proposé par Benito Mussolini. Il parvient à extorquer un énorme pactole au trésor public italien. Ben oui, quand vous confiez les affaires à un escroc, faut pas s'étonner d'être escroqué. Il va donc être pourchassé par les milices fascistes. Il s'enfuit au Brésil. C'est là-bas qu'il terminera sa vie et qu'il écrira les fameux mémoires qui nous permettent de vous raconter tout ça. Il avait donc inventé ce système de pyramide de Ponzi sur lequel certains continuent de prospérer de nos jours. On ne saurait trop recommander la méfiance, n'est-ce pas ? Charles Ponzi a quitté ce monde à Rio de Janeiro en janvier 1949. Il avait 67 ans.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci à Jean-Baptiste Galen de nous avoir, je dirais, amusé avec cette histoire de Ponzi. Et voici, puisque nous parlions de pyramide, notre pharaon radiophonique. C'est Christian Morin. Bonjour Christian.
Je dis ça parce que vous me voyez de profil. C'est ça. Uniquement pour ça. Je vous rapporte ce que je vous dois. Je vous ai mis ça sous enveloppe.
Bon, très bien. Oui, posez ça que... là, c'est très bien.
Oui, posez ça là. Dites-moi, vous parliez de travaux tout à l'heure dans l'évocation de cet escroc. Donc, c'était quand même des gens très adroits. Il faut le dire.
Oui, enfin, lui, il était moyennement adroit. Il était surtout d'un culot absolument extraordinaire.
Le culot, ça paye, si j'ose dire.
Il n'a jamais su, somme toute, tenir assez longtemps son affaire.
Hein. Bon, vous avez vu ce qui est arrivé ce matin dans l'histoire, puisque cet après-midi, vous parlez des visages d'Henri IV. Qu'est devenu la tête d'Henri IV ?
Ah, ben, c'est toute la question.
Alors, à propos de tête, eh bien, on a perdu quelque chose d'important dans l'histoire parisienne. Les ailes du Moulin Rouge.
Oui, elles sont tombées.
Oui. Et alors, j'ai eu un de mes amis, Toulouse-Lautrec, qui est passé 10 minutes avant, heureusement pour lui.
Il avait croqué tout ça.
Ah ben bien sûr, bien sûr. Donc, mais ça va être réparé assez rapidement.
Enfin, je l'espère.
Il n'y a pas eu de blessé, c'est déjà ça. Bien, alors, les visages d'Henri IV, donc c'est le sujet de cet après-midi. Et puis, demain, alors, vous allez évoquer un viol, le viol de Lucrèce. Je n'en dis pas plus. Demain matin, je vous souhaite une excellente journée.
Bonne journée à vous.